la pianiste du jazz.
Hier et aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Aujourd'hui, nous rediffusons une émission qui a été enregistrée il y a 7 ans, presque jour pour jour. Fermez les yeux, vous êtes à la fin de l'hiver 2012. Pascal a laissé sa place à sa petite fille, qui à l'époque était encore lycéenne. Et cette dernière va vous expliquer elle-même pourquoi elle a pris le micro de la planète du jazz ce jour-là.
Bonsoir.
Aujourd'hui, comme vous constatez, ma partenaire est beaucoup plus jeune que d'habitude puisqu'il s'agit de sa petite fille qui s'appelle Marion et qui a déjà sévi à ce micro il y a quelques mois. Marion n'est pas là par hasard parce que, figurez-vous que...
J'ai décidé de faire mon exposé d'histoire des arts sur Louis Armstrong.
Parce que le lycée de Marion, où elle est en troisième... C'est bien ça ?
Oui.
A demandé aux élèves de sa classe de faire des exposés et voilà le sujet choisi. Alors Louis Armstrong, c'est un vaste programme et j'ai donc conseillé à Marion de commencer par aller voir sur Internet quelques éléments biographiques. Alors qu'est-ce que tu as trouvé ?
J'ai trouvé qu'il était né à la Nouvelle-Orléans, dans la banlieue.
Dans un quartier très pauvre, près de Perdido Street.
Donc Louis Armstrong est un des plus grands créateurs du XXe siècle, toute musique confondue, peut-être le plus important, car sans lui, la plupart des musiques populaires actuelles n'existeraient pas.
C'est vrai que tout ce que nous entendons maintenant et depuis des années, comme musique rythmée, vient du jazz, et que le jazz vient, ce langage-là, vient de Louis Armstrong qui a été son plus important créateur au départ.
C'est aussi lui qui a inventé le langage musical entre 1925 et 1930.
Mais justement, c'est ce à quoi on va un petit peu se consacrer aujourd'hui pour une grande partie de l'émission. C'est un langage que nous appelons jazz et que tous les musiciens de jazz parlent depuis. C'est-à-dire que depuis le plus crasseux des amateurs jusqu'au plus grand des improvisateurs de jazz, je parle du jazz, hein, du jazz-jazz, pas de tout un tas de musique plus ou moins disparate, fusion et autres qui sévissent autour, mais du jazz lui-même. Eh bien, tous ces gens-là, ce sont un peu des enfants de Louis Armstrong.
Beaucoup de jazzmen disaient « Quand Louis Armstrong mourra, je mourrai ».
Oui, c'est vrai. Moi, j'ai interviewé beaucoup de jazzmen pour des revues quand j'étais plus jeune. Et c'est une réflexion qu'on m'a beaucoup faite. D'abord, toujours les gens le considéraient comme au-dessus de tout le monde. Les musiciens avaient pour lui un énorme respect, une énorme considération. En plus, comme c'est un personnage très convivial et sympathique, ils l'aimaient tous beaucoup, il avait surnommé Pops entre eux. C'est son surnom. Et il m'en est toujours écouté des disques de Louis Armstrong quand il voulait écouter quelque chose. Et certains m'ont dit, quand ce type-là mourra, moi je mourrai aussi. Et j'en ai rencontré un à qui c'est vraiment arrivé. Il était malade. Et quand on lui a appris ça à l'hôpital, il est mort après, en demandant simplement que l'embouchure de sa trompette soit mise dans le cercueil de Louis Armstrong. Ce qui a été fait. Louis Armstrong a commencé donc toute sa vie musicale d'enfant très pauvre à la Nouvelle-Orléans. Il était chanteur de rue quand il était petit avec 3 autres galopins. Et un jour, ils en ont fait un peu trop et s'est retrouvé dans une maison de correction. Et là, il y avait un éducateur éclairé qui mettait les gens à la musique. Et il est devenu, comme ça, tout de suite, un des bons musiciens du groupe. Il a appris le cornet. Et quand il est sorti de là, il avait un double métier. Il était bougnat, c'est-à-dire qu'il livrait du charbon dans une charrette, comme nos bougnats de l'ancien temps à Paris. Et parallèlement à ça, le soir, il commençait à jouer la trompette, il avait 14, 15, 16 ans. Et il a été pris en main par un musicien assez fabuleux qui s'appelait Joe Oliver, surnommé King Oliver, qui est parti pour Chicago un petit peu plus tard et qui l'a fait venir quand il avait 20 ans passé, Louis Armstrong. Il a fait venir Louis Armstrong à Chicago dans son orchestre comme deuxième trompette. Et c'est là que Louis Armstrong a fait ses premiers disques et sa première apparition comme soliste, c'est dans un morceau des fameux King Oliver qui s'appelle...
Chimes Blues.
Ça veut dire le blues de carillon. Alors il y a quelques petits effets de carillon dans le morceau, mais le solo est de Louis Armstrong et c'est le premier qu'il a enregistré.
Thank you.
Qu'est-ce que ça t'inspire ?
Bah, des carillons.
Oui, non, mais je veux dire, le solo de trompette, comment tu le décrirais ?
Il se détache bien de la chanson, enfin...
C'est vrai, il est bien envoyé. Il est quand même encore très jeune, il avait 22 ans quand il a enregistré ça, et on se rend compte qu'il est déjà très en équilibre. Il n'y a pas grand-chose d'approximatif dans ce qu'il fait. Alors, évidemment, c'est un solo qui a certainement été travaillé avant, parce qu'il est assez difficile. Il y a des passages en syncope qui sont difficiles à exécuter, mais il le fait avec beaucoup d'aisance. Et surtout, on voit qu'il joue entièrement en équilibre, c'est-à-dire qu'il est bien dans ses baskets. Et maintenant qu'on a dit ça sur ce solo, je te propose de réécouter juste le solo. T'as remarqué un petit peu, c'est quand même un style très parlé, parce qu'il y a une petite exclamation au milieu, là, viop, paf,
oui.
c'est un langage, hein, et ça se sent bien comme ça. Alors, un peu plus tard, après avoir séjourné chez King Oliver à Chicago, pendant 2 ans à peu près, Louis Armstrong a été évidemment très remarqué, parce que c'était un jeune talent qui explosait complètement, et il a été recruté par le plus fameux orchestre de l'époque à New York, qui était celui de Fletcher Anderson. Alors, il s'est passé quelque chose de très curieux. C'est que quand Louis Armstrong est arrivé dans cet orchestre, il y a foutu la révolution. Pas la révolution, tout le monde très agité, mais il a tellement marqué les gens qu'ils ont changé peu à peu leur manière de jouer. Et que c'est comme ça que le jazz, ce langage d'Armstrong, a commencé à se répandre. Et là, à cette époque-là, c'est en 1924, les interventions d'Armstrong sont très violentes, en fait. On a l'impression qu'il charge sabre au clair. Et c'est un très grand contraste par rapport à la musique de l'orchestre qui est encore à l'époque très sautillante et qui nous paraît à nous tout à fait vieillotte. Quand il arrive, ça change complètement de planète.
Mais est-ce que c'est vrai que Louis Armstrong, on devait le placer à 4 mètres pour pas que le dispositif saute lors des premiers enregistrements ?
Eh bien, c'est ce qu'on a raconté pour les disques de King Oliver. Ça se passait encore à une époque, il n'y a pas de micro. On enregistrait directement dans la cire à travers un cornet, comme un cornet acoustique. Hein. D'ailleurs, c'était un cornet acoustique, en fait. Et au bout du cornet, il y avait une aiguille qui gravait la cire. Et après ça, quand le disque était fabriqué, on avait ce sillon-là qui était directement issu du cornet. Et évidemment, il ne fallait pas que ça saute. Il n'y avait pas de réglage possible. Il fallait régler la distance des gens par rapport au cornet. Alors, c'était très difficile. Et il avait tellement de puissance qu'il fallait le mettre derrière les autres et assez loin pour que la perspective sonore soit à peu près possible pour le cornet. Sinon, il ne supportait pas le cornet. Et j'ai jamais compris comment ils faisaient quand ils étaient en public, parce que pour eux, les disques, c'était une occasion tout à fait encore marginale. Leur boulot, c'était de jouer tous les soirs. Et je ne sais pas comment on faisait dans cet orchestre pour que les deux trompettistes, King Oliver et Louis Armstrong, paraissent égaux en puissance. Alors je pense que King Oliver devait enfin mettre un sacré coup quand même, ou peut-être qu'il calmait son élève, hein, parce que c'était quand même son élève. Enfin, c'est comme ça. Tu sais qu'au début de son autobiographie, Armstrong dit, parce qu'il présente tous les morceaux un par un, et il raconte sa vie avec des morceaux de musique, on entendra ça tout à l'heure, il dit « La première rencontre que j'ai faite, importante, a été celle de Joe Oliver, papa Joe Oliver, il l'appelait comme ça. Il a été mon ami, mon professeur, mon inspiration et un grand créateur. » Commence par cet hommage. Et on sent dans les disques de King Oliver à quel point il était encore le disciple. Alors ce qu'on va entendre maintenant, chez Fletcher Anderson, il est totalement plus le disciple de personne, il est Louis Armstrong, il est en train de faire exploser sa musique. Ça s'appelle Shanghai Shuffle et tu verras que quand le trompettiste arrive, on change complètement de sphère. Thank you. Qu'est-ce que t'en penses là ?
On change complètement d'univers. À la première partie, on est complètement dans Shanghai et tout, et là...
C'est un arrangement, c'est une sorte de chinoiserie, quoi, puisque ça fait Shanghai Shuffle, ça dit bien son nom. Et en fait, quand il arrive là-dedans, dans cet arrangement qui est assez, finalement maintenant, qui nous paraît complètement kitsch, hein, ça fait... Il faut quand même savoir que ça a été enregistré. Il y a bientôt 90 ans, hein, ça fait quand même une paye. Hein. Mais... Ça a totalement vieilli, hein, c'est vieillot, c'est sautillant. Et au moment où le trompettiste arrive, on entre dans le monde du swing. C'est un type qui swing, qui est complètement élastique. Et il est très puissant.
En fait, c'est le touriste.
C'est le touriste qui arrive et qui regarde ça d'un autre œil. Et surtout qui a envie quand même de secouer tout ce qui se passe là autour. Il y a quelque chose, il veut le secouer. Et il le secoue avec beaucoup d'efficacité.
Et d'aisance.
Ouais, exactement. Et tu remarqueras, il est très puissant dans le sens qu'il fait, mais il n'est jamais trop puissant, il est quand même sous contrôle. Et il y a, vers la fin du solo, il y a une sorte de changement de pied assez étonnant. Après, c'est une phrase saccadée. Là. On va réécouter ce solo, comme ça les auditeurs pourront un petit peu mieux l'apprécier.
C'est vrai qu'il avait une voix très particulière, très marquée.
Comme tu peux l'entendre, oui, c'est une voix qui... Les gens qui disaient qu'elle graillonnait. En fait, ce qu'on a expliqué, c'est que Louis Armstrong avait des cordes vocales qui avaient une conformation assez spéciale. J'ai oublié le nom médical, mais ça ressemblait un peu comme effet à une laryngite chronique. Alors, ça lui est venu plutôt quand il a commencé à passer 35 ans. Avant, il avait une voix qui n'était pas comme ça. C'est arrivé un petit peu en vieillissant. Mais surtout, avec sa voix, il a inventé une sorte de manière de chanter très spéciale.
Le scat, non ?
Le scat, exactement. Beaucoup de gens ont fait du scat comme vocaliste. La Fitzgerald est célèbre pour ça. C'est un art très difficile, d'ailleurs. Il y a peu de gens qui sont capables de bien scatter en France. Je connais très peu de chanteurs et de chanteuses qui savent scatter. Mais là, il faut voir d'où c'est venu au départ. Et c'est une chose, si tu veux, on peut penser que Louis Armstrong se chantait des trucs dans sa tête ou comme ça, en se rasant le matin. Mais jusqu'ici, personne n'avait eu l'idée d'en faire un disque. Et c'est arrivé un peu par hasard. Un jour où il était en train d'enregistrer un morceau avec son petit orchestre d'après Fletcher Anderson, il avait monté un petit orchestre que pour des disques qui s'appelait le Hot Five, avec des copains de la Nouvelle-Orléans essentiellement. Et il enregistra un morceau qui s'appelait Heebie-Jeebies. Heebie-Jeebies, c'était une danse, hein, c'était... Parce qu'à l'époque, on inventait beaucoup de danses, on enregistrait des disques d'après les danses qu'on inventait. Il avait les paroles sur un papier, et le papier est tombé par terre. Donc il a enchaîné en inventant cette manière, comme ça. Comme ça, il passait par la tête. Et c'était le premier scat. Et après, ça a eu beaucoup de succès parce que quand les gens ont entendu ça, quand ils se rencontraient dans la rue, certains, ils écoutaient beaucoup de musique, les Noirs, pendant les disques qui paraissaient. Et ils se scattaient, les gens. Ils disaient bonjour en se scattant. Alors c'est devenu très populaire, le scat, à cause de ça. De même, quand il y avait un solo vraiment qui avait marqué une publication de disques, qui avait marqué les gens, ils le connaissaient tous par cœur. C'était une époque où les disques sortaient avec deux morceaux dessus, pas comme les CD où il y en a 20. Il n'y en avait que deux. Alors, vous pouvez les entendre. On les entendait beaucoup plus à fond. Enfin bref, le scat, voilà comment c'est arrivé. Ça s'appelle Heebie-Jeebies. Se demander ce qu'il y avait écrit sur ce fameux papier. En français, là, s'il te plaît, parce qu'on comprend pas tout l'anglais quand même.
J'ai les hibis, je dis bien le jibi. Vous parlez d'une danse, le hibi-jibi. Vous verrez les filles et les garçons, le visage épanoui, si vous ne connaissez pas. Ça, vous deviez l'apprendre, ne soyez pas triste, quelqu'un vous l'enseignera. Allons, venez danser cette jig que l'on appelle le hibi-jibi. Ça vous plaira, c'est la danse nommée hibi-jibi.
Voilà, comme tu vois, c'est vraiment le genre de paroles qu'il y avait sur tous les disques yéyé de l'époque. Celui des copains, hein,
c'est pas de la grande littérature. Non,
ça n'a pas cherché très loin. Mais alors, ce qu'il en a fait, c'est quand même...
C'est vraiment...
Ce qu'il en a fait, on s'est amusé à relever les paroles. Tiens, vas-y.
Yes, mom, papa's got the ibi-jibi bad. Hi, F God meuf di bodou di bam ribibi dou di dou dou rou di dou de dou di dou dou di dou 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 di dou 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 di di dou 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 skips clam clip body dad di di dad dum di Friend trick trick, so come on down, do that dance, they call the Heebie-Jeebies dance, sweet moment, papa's got to do the Heebie-Jeebies dance.
Voilà, bah écoute, ouf, mais yes. Alors, tu vois qu'il était quand même assez leste pour improviser. On va réécouter ce vocal maintenant que tu as lu ça. Yes, ma'am, papa's got the Heebie-Jeebies dance, yes, he's got to keep on, keep that fire. Keep on, 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 keep on
down. To come on down to that dance. They call it heebie-jeebies dance. Sweet mama, papa got to do the heebie-jeebies dance.
Ah, c'est quand même pas mal quand c'est mis en rythme comme ça avec toute cette espèce d'instinct là, c'est fabuleux. C'est quand même une grande invention, le scat, finalement.
Juste en ramassant une feuille.
Et juste, non, juste parce que la feuille est tombée, qu'il ne pouvait plus voir ce qu'il y a marqué dessus.
Oui, mais il l'a quand même ramassé.
Non, il l'a pas ramassé. Et ce qui est terrible, c'est que la feuille a été perdue. Rends compte, c'est une feuille historique. On l'aurait mise dans le musée de Nouvelle-Orléans en disant voilà la feuille grâce à laquelle
le scat a été inventé
parce qu'elle est tombée par terre. Bah non, on n'a jamais su. Il y a un type qui est passé pour faire le ménage et puis il a balancé la feuille sans savoir ce qu'il faisait. Tout à l'heure, on a parlé d'un langage musical et en fait, ce sont les disques du Hot 5 et du Hot 7 de Louis Armstrong qui ont popularisé tout ce qu'il était en train de créer. Alors, c'était un petit orchestre, comme tu as entendu là, des gens de Nouvelle-Orléans. Il y avait Kidori au trombone et Johnny Dodds à la clarinette. C'était de très, très grands musiciens. Johnny St-Cyr au banjo et puis la femme de Louis Armstrong au piano qui est un petit peu falote avec un tempo incertain. Mais enfin, c'était sa femme. Alors, elle était là. Hein, bon.
On comprend.
Il y a eu des femmes de musiciens qui jouaient mieux que ça quand même, c'est effectivement. Et un des disques les plus célèbres de Louis Armstrong, un de ceux qui a vraiment popularisé ce qu'il faisait, s'appelle « Potato Head Blues ». Alors, un potato head, c'est un idiot, quoi. C'est un bonnet, un mec un peu bébête.
Tout le monde doit se retrouver, alors.
Et dans ce morceau, il y a, à un moment donné, ce qu'on appelle des breaks, c'est-à-dire que la musique s'arrête, et le soliste joue tout seul, puis il y a des ponctuations, et il joue tout seul entre les... Et quand on entend ces phrases-là, on se rend compte qu'il a vraiment inventé un truc énorme, et que, en plus, cette chose-là, elle a l'accent.
C'est un langage, mais c'est tout un univers autour de...
Ce langage sert à explorer cet univers, en fait. Mais il est très compréhensible et c'est presque une histoire.
Il est à portée de tous.
Ouais, exactement. Tu sais, quand un solo est bon, il y a des gens qui disent... c'est une expression de jazzman, ça. Il raconte une histoire. Et ça, c'est bien vrai de Louis Armstrong. Alors, ce morceau, on va l'entendre maintenant. Donc, c'est ce Potato Head Blues. Mais après, il y a une chose assez étonnante qu'on va entendre aussi. Thank you.
le prochain morceau sera le même, mais à 30 ans de distance, c'est ça ?
Exactement, parce que 30 ans après, Louis Armstrong a enregistré, à la demande de sa maison de disques, une autobiographie. C'est-à-dire qu'on lui a dit, vous allez enregistrer de quoi faire 4 micro-sillons. Ça faisait à peu près une cinquantaine de morceaux. Retraçant votre carrière et les moments célèbres de votre carrière. Puis on fera un petit commentaire. Enfin, ça s'est très bien passé. Il a fait ça avec son orchestre de l'époque, le All Stars, qui était avec de très bons musiciens, Tommy Young au trombone, Barney Bigard à la clarinette, le pianiste Billy Kyle aussi, qui était bien, Harvey Shaw, le bassiste, c'était un très bon orchestre. Et il a réenregistré pas mal de ses morceaux, dont celui-là, et il le présente, alors là, avec sa voix, la voix qu'on lui... qui l'a rendu célèbre,
la voix
qui graillonne, là, parce qu'il a quand même 30 ans de plus.
Qu'on connaît tous.
Et il présente ce morceau, et tu vas voir, il dit bien que c'est le préféré de tous ses disques.
Et il a été arrangé, non enfin...
Oui, parce qu'on ne l'a pas remis brut exactement comme il était, parce qu'il ne cherchait pas à refaire la même chose. Il cherchait à évoquer le morceau, donc il rejoue ce morceau. Il y a aussi les breaks et les stop chorus, ça s'appelle comme ça, de tout à l'heure. Mais il y a deux ou trois phrases charnières qui ont été arrangées pour tout l'orchestre en même temps. Voilà, donc c'est de nouveau Potato Head Blues. Mais là, on est 30 ans plus tard.
The one coming up now is from one of the Hot 7 sessions when we added a drummer and a tuba to the old Hot 5. This is the one Tallulah Bankhead says is her favorite of all of my records. Potato Head Blues. Kind of like this one myself.
Comme différence entre les deux versions.
Le tempo a changé, c'est clair. Et enfin, c'est peut-être plus énergique, il y a peut-être plus d'instruments et peut-être que enfin, il a plus mûri, donc du coup, il y a peut-être plus de technique.
C'est vrai que le tempo est pas le même, le tempo est un peu plus lent. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus assis.
Oui.
Dans ce qu'il fait. C'est une autre manière de raconter l'histoire d'ailleurs. Tu sais, quand quelqu'un de 20 ans te raconte une histoire et puis quelqu'un de 50 ans te raconte une, et quelquefois c'est la même, c'est quand même pas la même façon de raconter. Et là, il ne fait qu'évoquer les breaks. Hein. Il fait juste 8 mesures là-dessus, c'est tout.
Ils sont plus courts et puis.
Exactement, la partie break est plus courte.
Des fois, c'est même pas des breaks, enfin, c'est. C'est repris par tout l'orchestre. Donc, celui-là, c'est son préféré, mais lequel est son plus célèbre ?
Le plus célèbre disque qu'il ait fait, je crois, enfin celui qui est le plus célèbre, oui, on peut dire ça, parce que c'est un disque célèbre d'abord pour son introduction. L'introduction de trompette, il a trouvé ça comme ça parce que il n'a pas beaucoup, je pense, réfléchi à ce qu'il allait jouer. Et c'est même pas sûr qu'il jouait la même chose à chaque fois qu'il jouait le morceau, hein, c'est sorti comme ça. Et plus tard, d'ailleurs, on lui a mis sous le nez la partition de ce qu'il avait joué pour cette introduction. C'était bourré de triple croche, et il a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est injouable ». On lui a dit, mais c'est votre introduction de West End Blues. Ah bon? Alors ce morceau s'appelle West End Blues et c'est une introduction effectivement très célèbre. Et beaucoup de trompettistes ont essayé de la jouer quand ils enregistraient ce morceau. Et il y a quelques jolis cassages de gueule dans certains disques quand même. Parce que là, pour arriver à faire ça, c'est un des sommets de l'art de la trompette quand même. T'en dis.
Je me demandais, mais à quel âge il a fait ce morceau, enfin...
Eh ben, il avait 27 ans.
Bon, bah, parce qu'on n'entend pas cette voix éraillée que...
Non, tout à fait.
Sur c'est
juste qu'il était capable de chanter comme ça, de manière très douce. Et tu remarques que c'est un genre de scat sur tempo lent, ce qu'il a fait. En duo avec la clarinette, c'est une idée tout à fait...
C'est un dialogue.
Oui, c'est un dialogue. Mais le coup de cette espèce de dialogue entre...
Il a inventé le scat et...
Il s'en sert comme ça aussi.
Et il l'a modernisé tout au long de sa vie, on peut dire ça. Fin...
Exactement, au fur et à mesure qu'il influençait les gens. Hein. Et alors, ce qui est très intéressant dans ce disque, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il avait dans son orchestre, c'était le Hot Five toujours, mais avec une formation un peu différente, puisqu'il y a un batteur, un très grand batteur qui s'appelle Zooty Singleton, qui était de Nouvelle-Orléans, qui était son ami d'enfance, avec lui qui faisait les 400 coups quand il était gamin. Et il y a un pianiste absolument extraordinaire qu'il a rencontré à Chicago, qui s'appelait Earl Hines, qui était un des plus grands pianistes de jazz, et qui avait à peu près le même âge que lui, ou 25-26 ans. Et à force de jouer avec Louis Armstrong, il a adopté son style au piano. Et c'est là qu'on se rend compte de l'influence de Louis Armstrong sur les autres musiciens. C'est que même un pianiste en vient à jouer de Louis Armstrong. Et je me rappelle un jour, en arrivant chez quelqu'un, j'ai entendu la musique dans l'escalier, à travers la porte et les murs, tu vois. Mais j'entendais pas que c'était du piano, quoi. J'entendais juste une petite rumeur. Et j'ai pensé que c'était un disque de Louis Armstrong. En fait, c'était un disque de Earl Hines et c'était du piano. On va passer ce solo parce que tu vas imaginer ce solo joué à la trompette et tu vas te rendre compte que c'est de Louis Armstrong.
Il y a un morceau qu'il a composé en dormant, mais c'est incroyable.
Ah, c'est une histoire étonnante, ça. Il se réveille au milieu de la nuit et il réveille sa femme et dit « Je viens de rêver un morceau ». Elle lui dit « Ah bon ? Ah oui ?» Il dit « C'est amusant ». Et puis il se tourne de l'autre côté pour s'endormir, mais c'est que la femme, qui s'appelait Lucille,
Elle était exigeante.
Elle s'est dit « Attention, c'est peut-être un morceau qui aura du succès », parce que c'était une femme qui avait le sens des affaires également. Elle a secoué son bonhomme et lui a dit « Mais pas question que tu te recouches, debout, un crayon, un papier, tu notes la mélodie, et puis après seulement tu pourras te recoucher ». Et elle l'a absolument empêché de se recoucher avant qu'il ait fini. Alors une fois qu'il ait fini...
Finalement, il s'est recouché ou pas ?
Je crois qu'il s'est recouché.
Parce que...
Et après, il a appris à jouer ce morceau-là. Il lui a trouvé une tonalité. Ça se joue en mi bémol.
Des paroles.
Et il a mis des paroles dessus. Et donc, c'est un titre. Et ce titre s'appelle...
Someday you'll be sorry.
Voilà. Ce qui signifie « Un de ces jours, vous le regretterez ». Puis après... Bah,
un de ces jours, ça va vraiment le regretter.
Exactement. Et bien après, il en a fait un disque. Et voilà le disque.
With you, and all your future you won't care. Oh, there won't be another to treat you like a brother. Someday you'll be sorry, dear. To treat you like a brother. Oh, someday you'll be sorry.
Donc, quelles sont les périodes les plus importantes de sa carrière ?
Pour moi, ce sont les périodes qui ont le plus influencé les gens. Et les musiciens ont été très marqués par ce que Louis Armstrong a fait en 27-28. On a entendu Potato Head Blues, on a entendu Western Blues. Ça, c'est des séries de disques, cette époque-là, qui ont profondément marqué l'histoire du jazz. Et c'est ceux-là qui ont donné au jazz son langage. Et puis, par rapport à ça aussi, il y a l'intensité des choses, un petit peu ce qu'elles représentent aussi comme moment historique. Les premiers disques avec King Oliver, c'est quelque chose de spécial. C'est l'arrivée du jazz dans le décor. Avant, c'était une musique folklorique. Et puis, plus tard, Louis Armstrong, dans les années 50, a vraiment connu, pour moi, sa période la plus grandiose. Là, il a atteint une énorme dimension parce que, non seulement il inventait quelque chose, mais en plus, il avait acquis une sérénité, une sobriété et une puissance qu'il n'avait jamais eu avant. Et qu'il n'a pas eu après, parce qu'après, il a fini par vieillir comme tout le monde. Et tu sais, la trompette, c'est un art difficile, très éprouvant, c'est très sportif. Et King Oliver disait, c'est pas vous qui aurez la trompette, c'est la trompette qui vous aura. Mais là, on est avant, on est dans les années 50, on est en 54 exactement. Et Louis Armstrong enregistre un album qui, pour moi, est un autre sommet de sa vie. C'est l'album où il a enregistré les compositions du célèbre William C. Handy, qui a composé entre autres St. Louis Blues, enfin un tas de morceaux très célèbres. Et celui-là s'appelle Hesitating Blues. Je l'ai retenu parce que c'est un morceau où la fin du morceau à la trompette, c'est quelque chose qui peut sembler absolument inégalable. On ne peut pas jouer à la fois avec cette précision et cette puissance. Enfin, personne n'y est jamais arrivé.
Peut-être que personne n'y arrivera jamais, après tout. Les génies naissent qu'une fois, on dit.
On dit ça, exactement. Oui, c'est vraiment un sommet de la trompette, ce morceau-là. Surtout quand on entend la manière dont ça se termine, dont Louis Armstrong emballe les dernières mesures du morceau. C'est vertigineux. Et ça s'appelle Hesitating Blues. C'est très amusant parce qu'il fait chanter Velma Middleton, sa chanteuse de l'époque. Ils étaient très complices et elle chante très bien. C'est une excellente chanteuse, Velma Middleton, un peu méconnue parce qu'elle est morte assez jeune, mais elle vaut le coup. Il faisait un tandem sur scène absolument formidable. Hesitating Blues.
Hello! Central, what's the matter with this line? I wanna talk to that high brown of mine. Tell me how long will I have to wait?
Won't be that long.
Please give me 298. Why do you hesitate?
Good number for tomorrow, Velma.
Oh, what you say? Can't talk to my brown. A storm last night blew the wires all down. Now tell me how long will I have to wait?
Come on in this house, gal.
Oh, won't you tell me now? Why do you hesitate?
Come on in there, Bella. Go on in there.
My beau proposed to me, said he'd be happy if his wife I'd be. Said he, how long, baby, will I have to wait? Come be my wife, my Kate, why do you hesitate? Say, I declined him. It was just for a start. He left that night on the cannonball. Honey, oh honey, how long will I have to wait?
I don't know about you, baby, but I'm ready now, and I ain't hesitating either.
Oh, won't you tell me now? Baby, why do you hesitate?
Comme il s'arrache à la fin du morceau là.
Ah mais c'est incroyable, c'est ça reste sans voix.
Oui, on en reste sans voix. D'ailleurs, je vais dire un truc, moi, j'ai envie de le réentendre juste ce trait là, parce que c'est quand même à la trompette, c'est énorme.
Est-ce qu'il était connu pour autre chose que la musique ?
Eh bien, écoute, oui. En fait, Louis Armstrong était un bon acteur, même un très bon acteur. Et on le voit dans une bonne douzaine de productions de Hollywood. Il était assez demandé.
Il a fait quel film, par exemple ?
Eh bien, il a fait partie du premier film de Minnelli. Le tout premier de Minnelli est un film qui a été tourné uniquement avec des Noirs. Ça s'appelait Cabin in the Sky. Et il joue le rôle d'un diablotin. D'un diablotin trompettiste.
C'est ah, ben ça lui va bien. Hein.
Mais c'est un très très chouette film. Cabin in the Sky. Ça fait, en français, Un petit coin aux cieux. Si vous voyez ça dans une médiathèque, n'hésitez pas, passer un bon moment. Il a joué dans un autre où il était valet d'écurie. Ça s'appelle Jeepers Creepers, du nom du cheval dont il s'occupait, qui est un cheval de course à qui il arrivait un tas d'aventures. Et il en est resté un morceau de musique qui s'appelait justement Jeepers Creepers. Il a joué dans pas mal d'autres films. Il a fait un film qui est un navet terrible qui s'appelle New Orleans. Mais le scénario est nul, mais les passages où il... Puis là, il joue sa musique. C'est un des rares films où on le voit jouer son propre rôle, parce que personne n'a jamais eu l'idée de faire tourner à Louis Armstrong sa propre biographie.
C'est dommage.
En revanche, on l'a très gentiment engagé pour tourner dans la biographie d'un trompettiste blanc insignifiant des années 20 qui s'appelait Red Nichols. Ça, c'est joué par Danny Kaye. Et puis alors, il y a autre chose. Louis Armstrong était très créatif et sa correspondance était très spéciale. Il avait une manière d'écrire tout à fait insolite et j'espère qu'un jour, quelqu'un fera un bouquin d'anthologie avec ce qu'il écrivait. Et puis, il avait un grand talent aussi pour les collages. Tu sais, il n'y a pas que le dessin dans les arts plastiques, aussi le collage. Des petits bouts de ci, des petits bouts de ça, ça fait une sorte d'ensemble, de patchwork qui veut dire quelque chose. Et comme il était beaucoup en voyage, il avait un magnétophone où il mettait des bandes enregistrées de ce qu'il avait envie d'entendre. Et donc, il y avait des boîtes pour ces bandes. Et toutes ces boîtes étaient décorées avec des collages. Il y en a comme ça plus de 200. Et elles sont au musée du Queens à New York. C'est très intéressant. On avait même fait un livre.
T'as le livre en question?
Oui, j'ai le livre en question. Quelqu'un de très bien, très gentiment intentionné m'en a fait cadeau pour un anniversaire. C'est très, très intéressant. J'en avais vu comme ça à New York dans le musée Armstrong, mais le bouquin est vraiment impressionnant. Parce
il y a tout dedans.
Il n'y a pas tout à fait tout, parce que 200, ça fait quand même beaucoup, mais il y en a quand même des très chouettes. Et alors, avant de conclure, tu pourrais donner quelques citations qui ont été dites sur Louis Armstrong. Il y en a quelques-unes qui sont pas mal. Qu'est-ce que disait Duke Ellington de Louis Armstrong?
L'histoire du jazz. Louis Armstrong debout.
On lui avait demandé ça. Qu'est-ce que c'est pour vous l'histoire du jazz? Que disait Gene Krupa? Gene Krupa, c'était un très célèbre batteur des années 30 et 40.
Personne ne peut jouer 32 mesures sans avoir une dette vis-à-vis de Louis Armstrong.
Que disait Milton Mesereau de lui?
C'est lui qui a tout fait et tout fait le premier.
Que disait Miles Davis?
Dès qu'on souffle dans un instrument, on sait qu'on ne pourra rien n'en sortir que Louis n'ait déjà fait.
Et que disait le critique français Hugues Panassier, dont on parle souvent ici?
Il jouait de la trompette comme on n'en a jamais joué avant lui, et c'est à craindre comme on n'en jouera jamais plus.
Je crois que pour une fois, on ne va pas terminer l'émission avec le générique habituel. On va le terminer avec l'indicatif de Louis Armstrong, de la fin de ses concerts. Hein, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais.
Ça s'appelle « When it's sleepy time down south ». C'est un morceau dont il se servait à la fin du concert pour dire au revoir aux gens.
Tout simplement.
Donc, nous nous en faisons autant et nous vous disons « La planète du jazz vous souhaite une bonne
fin de semaine »
et vous dit
« À la planète prochaine !»
Shining on the field below, the folks are crooning south below. You needn't tell me, boy, because I know, yes, when it's sleepy time down south, yes. The south wind blowing, the fine wood trees. The folks down there live a life of ease. When old mammy falls on her knees, bantus, 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 does that. Oh, ladies and gentlemen, on behalf of Velma Middleton, Billy Kyle, Trummy Young, Barry Deems, Bonnie Begaud, Orville Shaw, and myself,
We having a lot of fun swinging for you because you're a lovely audience. Much as we hate to say it, we must say thanks a million. And good night.